collègue et ami, M. Löwenberg, de ce qu'il a dit après ma communication sur Hegel. D'abord, M. Löwenberg est un grand connaisseur de Hegel. Il a donné des lectures sur la phénoménologie qui sont un ouvrage tout à fait important sur la phénoménologie de Hegel et où je trouve les quelques remarques, car ce ne sont pas des objections qu'il a présentées. Je suis presque obligé de dire que sur tous les points présentés, je suis d'accord avec M. Löwenberg. Il est certain que la pluralité des philosophies est groupée par Hegel en une philosophie de toutes ces philosophies-là. Il est certain aussi que l'idée d'un savoir absolu est inconcevable, sauf si on lui donne un certain sens problématique, que je veux bien lui donner. Autrement, c'est inconcevable. Le seul point sur lequel il pourrait peut-être y avoir une explication, c'est à propos du langage. C'est à propos du langage. M. Löwenberg a dit, je crois, y a-t-il donc un langage philosophique qui serait distinct de tous les autres langages? Je pense qu'il faut répondre, pour Hegel, il n'y a pas de langage philosophique propre à la philosophie. Il y a un langage mathématique. Hegel est l'adversaire de tout formalisme. C'est ça qui est intéressant. À certains égards, il faut voir dans la logique ou ailleurs, ou dans la préface de la phénoménologie, comment Hegel s'en prend à tout ce qui est système formel. Quand on dit que Hegel a réduit la philosophie à la logique, il faut bien entendre que ce n'est pas la logique formelle dont il s'agit, n'est-ce pas? Absolument pas. Et que pour Hegel, il n'y a pas un langage technique qui permettrait de résoudre les problèmes philosophiques. Le langage que parle Hegel, c'est la langue allemande à ce moment-là, et le jeu sur les mots, certainement, de la langue. Mais ce n'est pas autre chose, c'est difficile dans la traduction. Ça donne l'apparence d'un jargon, je le reconnais, il y a une certaine extraniation qui me donne le sentiment d'un arrachement de dents. Je ne sais pas comment faire. C'est pour distinguer « Entfremdung » et « Entteugerung », mais ces mots existent en allemand d'une manière assez courante. En français, « extraniation », évidemment, il y a le mot latin. La traduction de Hegel est une perpétuelle trahison. Je refais la préface, une toute petite anecdote, mais il faut bien égayer les choses. Et j'ai supprimé un contresens, il y en a d'autres, mais j'en ai supprimé un, qui est très spécial et qui dit très bien ce que pense Hegel. Il s'agit simplement de lire « der » ou « den ». Et on m'a dit, vous savez, Hegel écrivait tellement mal, mais enfin, que ça pourrait être un « er » ou un « en »,« der » ou « den ». En fait, c'est moi qui ai fait le contresens parce que j'ai été entraîné par la pensée. Hegel dit, et le résultat, et le cadavre, et j'ai traduit que la tendance laisse derrière soi. On laisse derrière soi un cadavre et on avance. Eh bien non. Hegel dit exactement, et le résultat, et le cadavre qui a laissé l'élan derrière soi. C'est beaucoup plus profond. Ça revient à dire qu'un résultat a perdu le départ de la jeunesse. C'est un résultat, mais l'élan a manqué. Or, Hegel était extraordinairement sensible à cet inattendu, car ce qu'on attend, c'est un élan qui laisse quelque chose derrière soi, et non pas perdre l'élan. Et ça en dit long sur la pensée hegelienne. Or, le texte philosophique de Hegel, je n'ai pas raconté cette anecdote pour le plaisir de raconter une anecdote, c'est pour dire que le style philosophique, c'est Hegel, est fondamental. Il est fondamental et on ne peut pas se déprendre de la façon dont Hegel raconte son histoire du monde. C'est pas un roman, c'est autre chose qu'un roman, mais c'est quand même quelque chose où le langage est fondamental. Et c'est le contraire d'une langue technique. C'est le contraire d'une langue technique, voilà. Mais M. Löwenberg a dit tout cela, mieux que je ne l'ai dit, dans un livre qui est sur la phénoménologie de l'esprit et où est suivi de proche en proche tous les moments. Quant à dire qu'effectivement on ne peut pas comprendre la préface sans les œuvres, bien sûr, bien sûr. Pourtant, la préface que j'avais un peu méconnue ou méprisée la première fois que j'ai lu la phénoménologie me paraît aujourd'hui un morceau royal. La préface, cette... je n'ai pas pu ici, parce qu'il fallait parler, montrer cette espèce de technique vivante, par lequel Hegel montre comment le public non philosophe se plaint et se lamente parce qu'il est obligé de relire deux fois ou trois fois les œuvres philosophiques. Et pourquoi ne les comprend-il pas? Eh bien, il ne les comprend pas parce qu'un énoncé philosophique ne ressemble pas à un énoncé ordinaire. Dans un énoncé philosophique, le sujet s'est mis à disparaître. Dans une proposition commune, il y a un sujet. De quoi parlez-vous? Je parle de ce verre. Qu'est-ce qu'il est, ce verre? Il est rond, il est blanc, il est noir, il est ce que vous voudrez. Mais il y a un support. Et puis ensuite, il y a des propriétés du support, qu'on appelle des prédicats. Or, dans un sujet philosophique, le support disparaît. On ne peut plus s'accrocher à rien. Il n'y a plus de noyau. Il est passé dans les prédicats. Russell n'a pas compris. C'était un grand mathématicien. Enfin, c'est un grand mathématicien. Il continue de faire des tas de choses, d'ailleurs, Russell. Et Russell avait commencé par être hegelien. Il avait tort, d'ailleurs, à cet égard. Mais il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Hegel? Il fait des propositions identiques. Il confond la copule avec l'identité. Non, la proposition identique de Hegel n'est pas une identité au sens du mathématicien. A égale B, et A reste fixe, et B reste fixe. A passe dans B. Et le seul sujet, c'est le devenir. Or, cette disparition du support et cette médiation continuelle font que les gens ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus parce qu'ils veulent un support. Ou à la rigueur, quand il n'y a pas de support, ils veulent être, eux, la pensée critique. La pensée commune comprend deux sortes de choses. Je ne veux pas recommencer mon exposé, je m'excuse. Mais elle comprend deux sortes de choses. Les gens se disent, il y a un support, ça. Tout le monde sait que les philosophes sont des gens épouvantables parce qu'ils se mettent à nier l'existence du support. Il y a un support. Et puis alors, la pensée commune admet aussi la pensée critique. C'est-à-dire, laissons de côté le support et disons que c'est nous qui faisons des tas de choses. Alors, la pensée oscille entre le support et ce que j'ai appelé... Ah, mais ça, je le dois à la pensée moderne, je le dois à tout le monde. J'ai traduit « raisonnieren » par « argumenter ». Alors que je le traduisais par ratiociner. Or, comme raisonnieren, dans la préface de Hegel, s'applique aussi bien aux mathématiques, mathématiques d'Euclide, postulat, axiome, au bavardage, à la littérature, à la conversation littéraire. Et il n'y a qu'à la philosophie qu'elle ne s'applique pas. Traduire par ratiociner ne va pas. Traduire par argumenter va très bien. La pensée comme une argumente, c'est-à-dire, une fois qu'elle a le support, elle se demande ce qu'elle va faire, des prédicats, comment elle va les accrocher, comme des wagons, ou comme la locomotive au wagon. Et la pensée philosophique écrase cette pensée commune, parce que le support s'effondre. Voilà la description. Et Hegel décrit ça en termes dynamiques. Il dit que la pensée commune éprouve un espèce de choc en retour. Elle est en train de passer dans le prédicat, et voilà, tout d'un coup, elle est renvoyée, comme par une répulsion, jusqu'au sujet qu'elle a perdu et qu'elle cherche en vain. Et elle cherche à se trouver elle-même hors de la chose, et voilà qu'elle est dans la chose au moment où elle voudrait s'y perdre. Il y a effectivement, c'est Hegel, quelque chose qu'il n'y a jamais eu, c'est les philosophes critiques qui cherchent à affiner ou à réfléchir sur l'instrument. Il a mis la critique dans l'instrument. Plus exactement, il a mis la critique dans le mouvement des choses. Je m'excuse, je ne veux pas recommencer. Mais ceci pour dire que tout ce que M. Leuwenberg m'a dit tout à l'heure ne me permet que de rebondir, car nous sommes d'accord sur l'impossibilité d'être absolument hegelien et sur l'admiration pour l'œuvre hegelienne.
I'll try to résumer. I thank Professor Leuwenberg for his opening remarks, and he is a very great connoisseur of the works of Hegel. He has given very important readings of the phenomenology and has made very excellent commentaries of them. His remarks, of course, are not a criticism, and I agree with nearly every one of the points. the plurality of philosophic expression, the pluralities of philosophy are grouped by Hegel into a kind of absolute, or into a kind of unified philosophy. The absolute knowledge is inconceivable, but he tries to explain, you need an explanation here of language. He says that in language there is a distance. For Hegel, Hegel is anti-formalistic, and he feels that no technical language must be used. And he wishes, he's the adversary of all formalism, and therefore he tries to find a technical language that will resolve all philosophic problems, but he realizes that this cannot be done. Hegel criticizes all formal suppositions, and it has been said that he has reduced philosophy to logic, but this is not true. The difficulties in translation we all know about. Some phrases are trying to translate some phrases like pulling teeth. But to lighten the tone, he tells a story about the problem of the reading the cadaver left his élan behind, when actually it was the élan. Well, it's the other way around. The élan left the cadaver behind, but actually it was the cadaver who left his élan behind. This, he says, demands a basic, fundamental philosophic style which is unchangeable, and he feels that Hegel has found this philosophic style, and it is inevitable and could not be altered in any way to retain its validity. The preface without the work is impossible, he agrees, that there is a global relationship. On the other hand, it is a masterpiece in its own right, and one must read these things several times over. The non-philosophical public complains that to understand these things, it must read them two or three times, and even then not understand them, but that this is worth the effort and necessary, because a philosophic expression, a philosophic énoncé, I would translate concept statement, in a philosophic statement, the subject disappears. What we call the support, the object, is normally understood as distinct from the predicate. But in a philosophic statement, the support disappears, and the nucleus of reality, which this support describes, is no longer there. The support has passed or gone into the predicate itself, and therefore it loses its identity and causes confusion. The mathematician Roussel says that Hegel confuses the copula with identification, as in mathematics you have A and you have B. But Professor Hippolyte explains that Hegel says that A passes into B. There isn't any fixed, stationary, static category there. He goes on, he says the reason this is incomprehensible is that people demand a support, a fixed support, and they don't look upon the mediation in the philosophic statement. And when the support ceases to exist, they lose track of what's going on. He says that the support, they first look at the support, and then they talk about critical thought as if the two things were not connected. They oscillate between them. When he translated the German word raisonnieren as ratiocinate, this term applies to all kinds of extra philosophic things such as bavardage, I translate that as gabbing, conversation, etc. But actually, when you translate it as argumentation, then it becomes germane to the philosophic problem. He says that in philosophic argumentation, the support, the identity of the support melts away, and Hegel explains this dynamically. The support is in the thing and yet out of it, and it passes again into the predicate. And so criticism then becomes the instrument.
Unless Professor Loewenberg wishes to make a brief reply to that, I will consider the floor open to discussion. We are now ready for questions to Monsieur Poulet. Monsieur Poulet.
Monsieur Poulet, à l'instant même, disait à propos de Hegel que son style était fondamental. reprenant ainsi quelque chose qu'il disait au début de son exposé, lorsqu'il se demandait quel était le style d'une œuvre philosophique, et qu'il proposait le style même de Hegel comme exemple parfait du style philosophique. Et alors je me suis dit, est-ce que M. Hippolyte n'est pas en train de se faire la partie belle ? Le cas de Hegel n'est-il pas un cas privilégié, un cas tout à fait exceptionnel, le cas d'une réussite du langage philosophique que nous ne trouvons pas dans les autres cas, même les plus célèbres ? Par exemple, lorsque nous considérons le langage hegelien, nous nous trouvons en face de quelque chose qui est fondamental et qui se maintient à travers le développement, de telle façon que le langage est l'acte même par lequel le fondamental se préserve et se développe dans le développement. Cela ne me semble vrai que dans le cas de Hegel. Et cela me semble en particulier inexact, et je crois que vous serez d'accord avec moi, dans le cas de celui que vous avez joint tout en l'opposant à Hegel, et qui est Leibniz. Dans le cas de Leibniz, ce qui importe, ce n'est pas le développement, c'est, si je peux dire, l'enveloppement. Et alors, nous le trouvons en présence soudainement d'un problème qui, je crois, n'a pas encore été soulevé jusqu'à présent, mais qui mérite d'être considéré dans la ligne même de ce que vous avez dit et qui est le problème de ce que nous pourrions appeler l'implicitation et l'explicitation dans et par le langage. Lorsque nous nous trouvons en présence de la pensée leibnizienne exposée par Leibniz, nous nous trouvons en présence d'une forme de langage qui reste toujours aussi condensée que possible. Nous sommes dans la catégorie de la densité maximum. Lorsque nous nous trouvons en présence, au contraire, d'une pensée comme celle de Hegel, nous nous trouvons en présence d'une pensée qui ne peut se satisfaire que dans la mesure même où elle se développe et où elle se développe par le langage. Est-ce que nous ne trouvons pas là en présence d'une opposition fondamentale qui arrive d'ailleurs à ce paradoxe extrêmement curieux que dans le cas particulier de Hegel, nous nous trouvons en présence d'une philosophie qui commence par la conscience malheureuse, qui commence comme une histoire de la conscience malheureuse et qui se termine comme une histoire de la parole heureuse. N'est-ce pas quelque chose d'inverse que nous trouvons dans d'autres philosophies, comme celle de Leibniz? N'est-ce pas ce que nous pourrions trouver aussi si nous considérions brièvement la poésie? La poésie, c'est généralement une parole qui cherche à se développer le moins possible. C'est une parole qui cherche à rester le plus qu'elle le peut dans son implicitation, de telle façon que si elle se développe, elle est perdue. Elle se gâte dans la mesure où elle se développe. Elle se gâte peut-être dans la mesure même où elle s'abandonne à son don de parole. Et c'est peut-être le cas en particulier, mettons, de la poésie de Victor Hugo. Opposons à cette sorte de poésie une poésie comme celle de Char. C'est une poésie où la densité du langage correspond à une sorte de saisie première de la vérité poétique dans une sorte de prélocution ou de prolocution, qui est le contraire de l'élocution, d'une certaine élocution philosophique qui pourrait être de type hegelien. Il y a donc, à côté du triomphe de la parole, en tout cas de la réussite de la parole philosophique que vous avez proposée, avec l'exemple de Hegel, il y a un échec de la parole explicitée, dont nous pouvons d'ailleurs voir un exemple dans une œuvre qui est après tout et grosso modo contemporaine de celle de Hegel et qui est le Tristram Shandy de Sterne. Qu'est-ce en somme que Tristram Shandy ? C'est l'histoire de quelqu'un qui, comme dans la phénoménologie de l'esprit, veut arriver à donner l'histoire de la fluctuation même de sa pensée. Or, à mesure qu'il veut donner cette histoire, il se trouve dans des conditions telles qu'il lui devient de moins en moins possible de la raconter, parce que la parole est trop lente, tandis au contraire que la pensée est trop vive, et que le décalage initial qui existe entre la pensée et la parole ne fait que s'aggraver à mesure que la parole est en train de progresser, de telle façon que la progression devient une digression. Nous sommes donc ici en train de passer du triomphe du langage à un échec du langage.
Le détour est très beau pour sauver la pensée. Il est d'une belle rhétorique, n'est-ce pas ? Il est d'un beau développement pour sauver la pensée. C'est un détour pour sauver la pensée. Heureusement.
Oh, pardon, permettez que j'utilise un peu.
Professor Poulet speaks of Mr. Hippolyte's expression, the fundamental style of Hegel, and he says that you cite as a perfect example the fundamental style of Hegel in this philosophy. And Professor Poulet says that this is a privileged example, and that there are many other cases where you find not the same degree of success in expression. Hegel was exceptional in this and had a very great gift for expression which others do not have. He says, in the language of Hegel, we find ourselves facing a fundamental thing, and the Hegel, when he begins an argument, maintains its tone throughout the entire development. It is an act by which the fundamental word is developed. Leibniz, on the other hand, does not develop, he envelops. This question has not been brought up, the question of implicitation as versus explicitation. For Leibniz, a language is as condensed as possible, is as dense and condensed as possible. And it is this maximum density that makes it difficult. Hegel developed his thought by language, Hegel begins with a happy consciousness, and he works toward, I'm sorry, with an unhappy consciousness, and he works toward a happy word. In other words, an unfelicitous consciousness toward a felicitous expression. He says this is somewhat like poetry, where the word seeks to develop the least, this is the opposite of poetry, where the word seeks to develop itself the least possible amount. He explains that if the word develops, it is lost. And we may take an example of Victor Hugo versus René Char. Char is a poet of density. He tries to express poetry in his original grasp of the poetic essence, and Professor Poulet characterizes this as a prelocution as opposed to elocution. And then he goes back to the triumph of the philosophic word in Hegel, but he feels that there's a failure of explicit words. And he cites Stern's Tristram Shandy as a story of someone who wishes to give an account of the fluctuation of his thought, but this becomes less and less possible since the words are too slow and the thought is too fast, and where there seems to be a progression, there's actually a digression.
Vous me touchez beaucoup parce que vous visez le point faible. Et c'est un magnifique détour que vous avez pris pour sauver la pensée, il fallait que ce soit un détour. Vous me visez en accusant Victor Hugo, dans une certaine mesure, ce qui n'est pas si mal. Vous accusez ce langage qui se développe, vous l'accusez d'une mauvaise rhétorique, en fin de compte, vous l'accusez d'oratio, n'est-ce pas, d'un discours de trop d'éloquence. Et vous y opposez la condensation. Cette condensation qui recouvre un silence intérieur infiniment plus profond que la parole, c'est comme ça que vous sauvez la pensée. Heureusement pour moi, dans vos exemples, il y en a un, permettez-moi de vous le dire, qui ne colle pas, c'est celui de Leibniz. Votre position des poètes, Je vais y venir tout à l'heure, ça colle. Mais pour Leibniz, il suffit de monter au sommet de la Théodicée, dans ce building à je ne sais combien d'états, où se trouvent tous les mondes possibles et où on déroule toutes les histoires de Tarquin, pour s'apercevoir de la prodigieuse imagination de Leibniz. Ceci dit, il y a des cas où Hegel s'efforce de condenser, et il y a des cas malheureux où il développe ce qu'on comprend très bien et où il a l'air de faire de l'esprit, et où c'est assez misérable à propos de la phrénologie, ce qu'il dit est peut-être intéressant, mais il y consacre 10 pages, alors que pour des choses très profondes, en particulier comme l'ici et le maintenant, il dit ça d'une façon très condensée. Je ne pense pas que pour Leibniz, comme pour Aristote, nous pourrions trouver, je ne pense pas que pour Leibniz, nous puissions dire que l'enveloppement ne soit pas en même temps un développement. Il sert à condenser sa pensée, mais il y a des tas de mythes, c'est Leibniz. Il y en a beaucoup, presque à tous les moments. Là, je n'en suis pas sûr. Mais, où vous avez raison, c'est quand vous opposez le poète profond, qui ne prononce que des monosyllabes, presque, n'est-ce pas, parce qu'il cherche une densité tellement grande. Hegel va donner une place. Il a appelé ça la belle âme. Et elle s'exclut elle-même du dialogue. Elle ne peut plus communiquer. Dans sa pureté, elle s'évanouit. Un problème. Et elle disparaît parce qu'elle refuse la communication, disons elle-même. C'est un peu sous cette forme que ce serait. Si vous l'appliquez à la nuit, je crois que nous pourrions discuter, que je m'engage à essayer de montrer que la densité de la nuit n'exclut pas les développements et les mythes. Il y a naturellement deux structures philosophiques assez différentes. Mais quand vous prenez la poésie, prenons elle-même, alors là, je sens que je suis gêné pour vous répondre, que vous m'atteignez. Vous m'atteignez parce que les derniers poèmes de Hölderlin, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Hegel pensait de Hölderlin? Voilà une question profonde. Vous savez que je crois qu'à un moment donné, Hölderlin a écrit à Hegel qui subissait une crise de mélancolie à Francfort, « Toi, tu t'en tireras, mais moi, je ne m'en tirerai pas. » La question est de savoir, qui a touché le fond de l'absolu? Celui qui ne s'en est pas tiré? C'est peut-être Lacan qui nous dira ça ce soir. Hölderlin? Ou celui qui s'en est tiré en gardant la communication? Hegel. Et ici, vous me touchez, parce que je ne peux pas répondre, dans le fond de la question. Je ne peux pas répondre. Les poèmes, les derniers poèmes de Hölderlin, les poèmes de la folie, ce signe vide du sens. Qu'est-ce que ça signifie par rapport au discours hegelien? Vous me touchez, parce que il y a quelque chose qui est très supérieur à toute éloquence, dans le meilleur sens du terme, éloquence quand même, enfin non, dans le sens qui n'est pas le lagus, mais qui est le développement, la suite, celui qui refuse de parler, ou qui du moins dont la parole est si condensée qu'elle évoque un silence. Non, je ne peux pas l'exclure, Hegel l'exclut en cours de route, il le rencontre. Sur la parole finale qui triomphe, de la conscience malheureuse. Oui, bien sûr, vous avez raison, ça revient au même. Hegel, Leibniz aussi. Ce monde est le moins mauvais possible, vous savez, pour Leibniz, le moins mauvais. Et c'est quelque chose de prodigieux. L'ampleur de ce monde a été réalisée avec des infinis d'infinis, c'est Leibniz, ça. Ils se ressemblent beaucoup, Leibniz et Hegel. Ils ont tous les deux une espèce de puissance spéculative prodigieuse. Et tous les deux sont des réalistes finis. Les conciles, ils ne croyaient pas à Dieu, enfin. Je vais loin sur Leibniz en disant cela. Mais enfin, finalement, il n'y avait qu'à rassembler le pouvoir spirituel, il n'y avait qu'à tenter les conciles comme à tenter. Tous les deux sont des réalistes, à des titres divers. Alors pour Leibniz, je ne peux pas répondre. Mais pour la poésie, vous m'atteignez, car encore une fois, y a-t-il dans la pensée poétique quelque chose, justement, où cela échappe à la parole et au langage? Vous ne pouviez pas prendre de meilleurs détours pour que je ne puisse pas vous répondre absolument parlant. La poésie est-elle supérieure, c'est Hölderlin, à la philosophie?
Mais la poésie est tout de même langage.
Et bien sûr, vous me donnez un argument, ça c'est bien. Elle est un autre langage. Elle est un autre langage et cet autre langage, voilà, Je vous l'accorde.
Professor Hippolyte says, you strike me in my weak point when you accuse the language of being really bad rhetoric. In condensation, one finds an interior value which is perhaps more eloquent than speech. Leibniz, at various times, was prolix, but in the here and now, he is extremely condensed. But the word envelope is not to develop, and he has many myths. You oppose the poet who only pronounce, you oppose to philosophy or to the philosophers, specifically to Hegel, the poet who only pronounces a syllable. Leibniz.
Il appelait ça la belle quoi?
Leibniz?
Appelait quoi
la théodicée, n'est-ce pas?
Non, la belle quelque chose.
La belle âme, de Hegel.
Oh, la belle âme, the fair.
Ah, mais c'est pas Leibniz qui est la belle âme. Hein?
Vous avez Leibniz, il avait une place pour ça dans sa philosophie.
Il y a une place pour la belle âme dans Hegel, oui, mais pas dans Leibniz.
Pardon, all right. Hegel had a place for what he called la belle âme, the fair soul, which was the extremely tenuous quality of poetry in its purity. It disappears and refuses communication. I would like to demonstrate this to you further at another time, but he describes the correspondence between Hölderlin and Leibniz and says that there is a sense which is superior to eloquence, so condensed that it evokes a silence, the infinite of the infinite. Poetry escapes language. And Mr. Poulet answered that, but poetry is language, and I think this can be continued another time.
Monsieur Girard.
Je voudrais reprendre la question du niveau auquel tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être hegelien, mais à quel niveau on ne peut pas être hegelien? Et vous avez parlé de l'interprétation que donne Don Quichotte de la que donne Hegel de Don Quichotte, qui me paraît révéler malgré tout le mythe historique de la phénoménologie. Don Quichotte est essentiellement le héros qui refuse la prose du monde, c'est-à-dire c'est le héros du passé, le héros qui appartient à un monde fini. Et cette interprétation, nous le savons, a dominé toute la lecture de Cervantes depuis. La lecture marxiste en particulier. Mais il me semble que cette interprétation est fausse, et il y a beaucoup de manières de le montrer, mais je n'en citerai qu'un point, c'est le chapitre où Cervantes, Don Quichotte, se rend dans une imprimerie, et où dans cette imprimerie, il voit imprimer le roman même qui est le sien, et où là, il se dit, mon personnage va se multiplier à l'infini, et on peut aisément voir là, une espèce de prophétie de ce qui se passe dans notre monde avec non seulement la lecture, bien sûr, mais les autres moyens de reproduction du mot et de l'image. N'est-ce pas? Et il me semble que dans le roman, tout votre exposé, Hegel lui-même, unit l'idée du roman, du Bildung Roman, à celui de la phénoménologie. Il me semble que la structure romanesque est très différente. Car loin de passer, si vous voulez, d'une tabula rasa à une espèce d'accumulation du savoir qui se fait peut-être par des zigzags avec beaucoup de contradictions chez Hegel, le mot Bildungsroman en allemand ne traduit pas, il me semble, ce qu'est le vrai roman, le roman au sens de Cervantes, le mot Desengaño, ou le mot français éducation qui veut sortir d'eux, montrerait que le mythe, n'est-ce pas, est toujours présent dans l'individu. Et ce mythe, si on regarde la structure du roman, loin de diminuer de plus en plus pour être remplacé par la connaissance vraie, on pourrait dire qu'au contraire, il s'étend de plus en plus. Dans la seconde partie de Don Quichotte, tous les personnages deviennent fous, et en particulier ceux qui voulant se moquer de Don Quichotte, n'est-ce pas, s'imaginent connaître sa vérité, et en réalité tombent dans le piège que, sans le savoir lui-même, il leur tend. Et de même, je pense à votre article où vous comparez le mythe édipien à la phénoménologie, un article que j'admire beaucoup, mais où il me semble qu'il y a malgré tout une différence essentielle entre le mouvement du mythe et le mouvement de la phénoménologie qui n'est pas reconnu, et c'est là le fait que dans le mythe aussi, l'illusion d'Édipe se formule en un sens de mieux en mieux au cours du mythe lui-même, mais aussi devient, s'approfondit et s'intensifie de plus en plus. Par conséquent, personnellement, je tendrais plutôt à interpréter la phénoménologie comme un mythe manqué, plutôt que le mythe comme une ébauche du mythe. Et il me semble que le mythe aujourd'hui et parle beaucoup mieux de notre rapport, du rapport du moi et de l'autre, du langage et de la temporalité que la phénoménologie. Mais justement, alors ceci pose la question de la conclusion. Et vous dites, on ne peut pas être hegélien à cause de la réconciliation. Et je suis d'accord avec vous, dans la mesure où la réconciliation, précisément, c'est la catharsis. Mais je dis, la phénoménologie est un mythe manqué, dans la mesure où, malgré tout, elle reproduit la structure. Et être un mythe manqué, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, ce que très peu d'œuvres sont, n'est-ce pas ? Mais ce qu'il faudrait réussir à penser, justement, c'est la distance entre la conclusion de la phénoménologie interprétée comme réconciliation, c'est-à-dire comme catharsis, et cette expérience de la conclusion du mythe, qui est révélation fulgurante de la vérité, mais révélation unique, et dans la mort, et non pas dans la réconciliation générale.
Vous posez la question.
Professor Girard speaks of the problem of Hegelianism in regard to being a Hegelian. At what level are you going to be a Hegelian? And then he brings in the question of the novel of Don Quixote, who refuses the world of his time. Now he says when Don Quixote enters into the print shop, he sees the novel of himself, the very novel of himself set in the type, and he realizes that his personage will be multiplied, and this poses the problem of the reproduction of images. Professor Girard speaks of the Bildungsroman, which he says is phenomenological, but he says it does not take off from a tabula rasa. It isn't the true novel. The novel of the Disengaño, or the Education in French. The myth is always present in the novel. In the second part of the Don Quixote, all the personages seem to become mad, and those who make fun of Don Quixote themselves fall into the trap. He speaks of the myth as being, for example, the illusion of Oedipus, which deepens and intensifies, and that modern myth, of course, has become the problem of the relationship between the I and the other. But he says that the phenomenology of Hegel is already a mythe manqué, almost becomes a myth in itself, which is really extraordinary. But as Professor Hippolyte has pointed out in the speech today, there is a lack of reconciliation there in his conclusion. And Professor Girard suggests that this reconciliation would only be affected by a catharsis. And if this catharsis could be affected, you would have a stupendous revelation of truth.
Vous me faites, je suis vraiment désolé que Lançon n'ait pas laissé aller en Espagne pour connaître tant d'interprétations de Don Quichotte qu'on n'a pas fini d'interpréter, n'est-ce pas, non ? Toutefois, vous avez peut-être lu le livre de Marthe Robert sur Don Quichotte et le château. Et alors, je serais tenté de vous répondre quand Don Quichotte aperçoit qu'on est en train de faire des livres sur Don Quichotte. Eh oui, il rentre dans la littérature, c'est bien ce qu'a voulu dire Hegel. Le problème de Don Quichotte rencontrant la prose du monde, c'est d'aller voir si la littérature est dans le monde. Mais si par hasard elle n'était pas dans le monde, et si elle était une littérature, Don Quichotte aurait échoué dans une large mesure. Le problème de Don Quichotte devenant un héros de la littérature, c'est l'échec de Don Quichotte pris en soi-même.
Est-ce qu'il y a une prose du monde, ou au contraire, est-ce qu'on n'entre pas dans une ère plus mythique encore, parce qu'elle se croit privée de mythe, que toutes les ères antérieures ?
Eh oui, l'interprétation en effet que Hegel donne de Don Quichotte, dans l'esthétique surtout, pas dans la phénoménologie, c'est bien en effet le passage à la prose du monde, dans lequel il y a encore des romans, mais il n'y a plus d'épopée, prisons. La prose du monde, c'est, eh bien, c'est la séparation de l'universel, de la loi, de l'économie et des hommes, qui sont obligés d'en passer par l'abstrait, par l'abstraction. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose de très profond. Et vous ne sauvez, Vous ne sauvez pas le problème, le mythe de Don Quichotte en faisant une littérature, en disant que Don Quichotte voit déjà qu'il est dans les livres. Parce que précisément la question est de savoir si les livres sont dans le monde, dans une certaine mesure. La question est de savoir si nous restons dans la littérature, est-ce que nous pouvons. Vous me paraissez avoir une confiance que je n'ai pas, en croyant que nous pouvons édifier aujourd'hui de nouveaux mythes, mythes de l'avenir.
Non, je dis au contraire que peut-être nous sommes dans un mythe que nous ne percevons pas. Il ne s'agit pas d'édifier les mythes, il s'agit de percevoir ceux sur lesquels nous vivons et dont nous nous croyons libres.
Je peux vous penser qu'il y ait un mythe manqué chez Hegel, c'est la démythification qui est manquée, c'est ça. C'est la démythification. Dans quelle mesure est-ce que, et nous en venons bien à mon étude de la préface de la phénoménologie ici, dans quelle mesure est-ce que la philosophie conserve la puissance créatrice du roman, si vous voulez, et en même temps reste critique. C'est l'unité de ces deux choses qui fait le discours philosophique. C'est d'être à la fois elle-même et la critique d'elle-même, d'être sa parole et la critique de sa parole sur sa parole. Et que la critique ne soit pas séparée. C'est un des aspects de... Ça ne répond pas à votre problème de Don Quichotte, qui exige une interprétation qui n'en a pas fini. Simplement, ce que je crois important, c'est que si Don Quichotte voit qu'il est dans un livre, c'est fini. Il est devenu lui-même un roman de chevalerie, bien sûr.
Moi, ça commence.
I'm sorry now that Professor Lançon did not let me go to Spain. Marthe Robert has written a book on called Don Quixote and the Chateau. The question is literature in the world? If it is not, where is the prose of the world? Quixote would have failed. There must be a separation, for Professor Hippolyte, the prose is a separation of all things, and these things eventually separated from each other become abstractions. You can't save it by making of it one literature. There are books in the world, and you have a confidence that I do not share in this. And Professor Girard answers, we are ourselves in a myth which we do not perceive. We're living in, through a myth which we do not perceive. And Professor Hippolyte answers that the myth of Hegel, the reason that it's a myth manqué is because of the demystification in Hegel. And he says, how much does philosophy conserve the power of the novel and yet remain a criticism in itself?
We now have four interventions coming up on the parts of Mr. Hammond, Mr. Goldman, Mr. Kuhn, and Mr. DeMann. I'll call it Mr. Hammond first.
I wanted to ask not so much a question as to make a comment, and perhaps a naive comment, on Professor Hippolyte's paper, that you've introduced a word which I thought was taboo at this conference, namely style, the style. And to me, as an English critic, this has a very wide usage. To take a crude example, I learned recently that the first thing General de Gaulle wrote was a tragedy in the manner of Corneille. And one could say, in fact, I'm sure the American State Department might well say, that he is still writing a tragedy in the manner of Corneille. But the point would be that one would use style both for his language and his writing and also for his political behavior. So I would ask Professor Hippolyte why you didn't use the word structure in speaking in a combined way of Hegel's language as well as his method of thought, or do you feel this would be an inappropriate use of the word? Alternatively, I would ask Monsieur Poulet or Monsieur Bout if they would feel that the word structure would be more appropriate.
C'est l'emploi de l'autre culture, ça. Pour désigner le style. C'est l'emploi du mot, si vous avez bien compris, c'est l'emploi du mot structure, l'ambiguïté du mot structure, à la fois pour la méthode
et pour le style.
Et pour le style.
Le style.
C'est l'emploi.
Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi du mot de structure?
Ah, pourquoi je ne m'en suis pas servi? Mais ou pourquoi je ne l'ai pas employé?
Pourquoi je ne vous en ai pas servi?
Je ne m'en suis pas servi. Je l'ai employé, mais je ne m'en suis pas servi.
Non.
Ah non, mais c'est là la question. Je cherche quel est le reproche. C'est de l'avoir.
Non,
vous avez parlé du style et de la méthode, mais il lui semble à monsieur que le mot structure résume et le style et la méthode.
Alors nous serions d'accord, monsieur. Si vous pensez que le mot structure, si je ne l'ai pas employé, c'est sans doute pour éviter, comment dirais-je, un terme trop à la mode en essayant. Mais je ne refuse pas du tout de l'employer, je l'ai mis dans le titre. Si vous pensez que le mot structure groupe sous lui et la méthode et le style, je suis d'accord avec vous. Seulement, la question c'est qu'est-ce qu'une structure et que voulons-nous dire quand nous employons le mot structure? Normalement, une structure, c'est un ensemble dans lequel les termes sont déterminés par l'ensemble et se déterminent mutuellement les uns les autres dans l'ensemble, n'est-ce pas? Alors, je pense que chez Hegel, il n'y a pas de méthode séparable du développement pris en lui-même. C'est-à-dire, il n'y a pas une structure de la méthode antérieure à la structure même du discours. C'est très difficile à penser, d'ailleurs, ceci pour les structuralistes, dans une large mesure, parce que, et c'est pour là qu'ils ont davantage recours à Leibniz, qui est véritablement le père de cette pensée, car Leibniz élabore des modèles structuraux qui jouent dans des cas très divers. Est-ce qu'il y a ça, c'est Hegel, et est-ce qu'on trouve quelque chose de cet ordre, c'est Hegel? Oui, dans la mesure où il y a une réduction eidétique, c'est Hegel. C'est-à-dire, où Hegel ne parle pas de X ou d'Y, mais il a effectué une réduction des sens, à une structure des sens. Certainement, dans chaque chapitre de la phénoménologie, il y a des réductions de cet ordre. Car on pourrait demander, et il dit lui-même dans la préface cette phrase étonnante, que ce sont les choses qui s'essentialisent elles-mêmes. Ce n'est pas. Où sert. C'est ici qu'il faut renverser la question. Où sert le fait une réduction eidétique? C'est lui, où sert le philosophe, qui, par des variations, détermine l'essence. Mais pour Hegel, ce sont les choses qui se montrent dans leur essence, elles-mêmes. Elles effectuent leur réduction eidétique elles-mêmes. C'est une pensée très réaliste que la pensée hegelienne. Vous m'excuserez si je ne développe pas trop, car me lancer sur la structure, le style et la méthode, si vous voulez me dire qu'ils sont liés, je vous l'accorde. Si vous voulez m'en demander davantage sur la structure, c'est très difficile. Enfin, c'est pas un refus, c'est simplement qu'il faudrait nous lancer dans l'usage du mot structure. Je crois qu'on a raison de l'employer pour Hegel, mais...
Very briefly, Professor Hippolyte says that there is no structure which is preliminary to expression, and that in Leibniz, in Hegel, there are no structures which are preliminary to expression. In Leibniz, there are structured models, but in Hegel, you have what he calls eidetic reduction of sense, things which essentialize themselves, show themselves in their essence, and which are not expressed by the philosopher as with any detachment or any distance.
It's been drawn to my attention that the time is very late, and I would wish to recognize the people I'd already mentioned. Mr. Goldman has just signaled me that he doesn't now wish to speak, and we have two others, Mr. Kuhn and Mr. Demann.
Après ce qu'avait dit Monsieur Poulet au sujet de la langue poétique, et après ce que Monsieur Girard a dit au sujet de la langue romanesque, ou plutôt mythique, eh bien, ils m'ont donné le courage de poser une question qui vous paraîtra peut-être comme le balbutiement d'une conscience commune. Au début de votre de votre discours, vous avez parlé de la différence entre la langue philosophique et la langue littéraire. Et si je vous... La langue littéraire. Et si je vous avais bien suivi, les deux différences essentielles, c'était que dans la langue philosophique, il y a... La langue philosophique s'appuie sur ce que vous avez appelé, je crois, une sorte de norme de vérité. Et deuxième différence, c'est que la langue philosophique porte en elle-même sa propre critique. Eh bien, et ensuite vous avez parlé de Robe Grillée et l'échec de l'essai de combiner l'esprit critique et l'esprit littéraire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a, à mon avis, surtout dans les romans les plus faibles de Robe Grillée, un décalage entre la langue littéraire et la langue critique. Mais il me semble pourtant que dans la plupart des grands romanciers et même chez les poètes, il y a une combinaison de langues poétiques et critiques. Je pense à Stendhal, je n'ose pas parler de Cervantes, ou je pense à Mallarmé. Ceci m'a surtout troublé quand vous avez parlé, quand vous avez défini ce que c'est qu'un énoncé philosophique, ce qui m'a paru être l'énoncé poétique, ou je dirais plus précisément l'énoncé mallarméen.
Professor Kuhn says that after hearing the question of Professor Poulet about poetics and Professor Girard about the myth, he takes courage, and this may be just the babbling of an ordinary consciousness in the Hegelian sense, but you speak of the difference between philosophic language and literary language, and you say that philosophic language has two things in it. One is a norm of truth, and the other, that is, that it carries its own criticism with it. And you say that Robe Grillée has failed in his attempt to combine these two types of language. He feels, Professor Kuhn feels, that the combination has actually been successfully effected, for example, by Stendhal in the novel and by Mallarmé in poetry. And he says, you speak of a philosophic énoncé, a word I don't find an easy translation for, but a statement which is enunciated, which expresses certain ideas. And yet there is a Mallarméen, an énoncé Mallarmé, which is to say an énoncé, which is typical of Mallarmé's method of expressing himself in poetry.
Oui, bien, vous n'avez pas, je ne vous parlerai pas des balbutiements de la pensée commune, loin de là, ou de la parole commune, car tout ce que vous m'avez dit m'intéresse et ne me paraît pas hors de ma propre problématique. Vous avez dit qu'il y avait des romanciers ou des poètes qui étaient à la fois critiques d'eux-mêmes, enfin, dans laquelle la langue critique accompagnait la langue poétique. Je ne le conteste pas, mais c'est caractéristique de du langage philosophique, ce n'est pas absolument caractéristique du langage poétique. Si vous voulez, vous me faites voir qu'il y a aussi, dans un certain langage, une critique qui apparaît. Mais une critique, attention, dans la langue philosophique, elle n'est pas dissolvante, elle est créatrice, au contraire. Et vous me prenez un exemple qui est celui de quelqu'un dont on a dit qu'il était hegelien. Je ne sais pas s'il l'était, mais il y a des choses en lui qui s'en rapprochent, parce que sa pensée est un message, et un message sur le message. Et qu'il fait du message sur le message même. C'est le coup de dé qui n'abolira jamais le hasard, même quand il est sorti de circonstances extraordinaires et qu'il est comme une constellation, une étrange réussite, même battu des flots. Cette réussite, elle est l'émergence d'un sens. Et c'est aussi quelque chose de cet ordre que cherche Hegel. Vous me prenez dans Mallarmé un exemple qui ne peut que me passionner en lui-même. Je ne vous conteste pas qu'il y ait des œuvres littéraires qui soient déjà des œuvres philosophiques. Est-ce que les œuvres philosophiques sont des œuvres littéraires? Ah, nous touchons là un statut, c'est bien ce que j'ai voulu faire en parlant du statut de l'œuvre philosophique. Et M. Poulet, en me parlant de la densité de Leibniz, qui ne s'oppose pas d'ailleurs à une amplification mondiale et universelle, faisait au fond une critique littéraire, n'est-ce pas, de l'œuvre philosophique, du style de Leibniz, comme j'ai tenté de montrer que Hegel étudiait le style du philosophe et le rythme. Cet aspect m'intéresse tout spécialement. Je ne pense pas qu'on puisse en philosophie aujourd'hui faire autre chose que tenter avec critique de dire ce que les sciences techniques elles-mêmes développent. Il reste une part pour la philosophie qui a une norme de vérité, mais non pas nécessairement une vérité éternelle. Je ne peux pas faire autre chose en philosophie que cela. Et j'essaie de situer l'œuvre philosophique, et vous me rendez service en la confrontant à des œuvres littéraires, comme vous essayez de le faire. Je pense tout à l'heure, je réponds quand même à ce qu'on disait à propos de Don Quichotte. Il y a dans la littérature des réductions phénoménologiques, vous savez. La vie de Marianne est une réduction phénoménologique. Elle n'a ni fortune, ni parents, ni rien. Et elle commence à zéro.
Not at all is this a babbling of the ordinary consciousness, and it is not at all outside of my own problematic, my own problems. The novelists often are critics of themselves, and the characteristic of philosophic language, this is a characteristic of philosophic language, however, and not of poetic or literary language. That is, that the novelist should criticize himself as a characteristic of philosophic language and outside of the realm of actual literature, perhaps. There is a criticism in some language, but in philosophy this criticism is not, it does not dissolve the thought. It is creative, on the contrary. It is a message, and it is a message about a message. As when we read, un coup de dé n'abolira jamais le hasard, a throw of the dice will never abolish chance. The success here is the emergence of a sense. This is to be found also in Hegel. Literary works, are they not also philosophic works, and vice versa? This problem comes back then of the status of philosophy and of criticism. Hegel studied style very carefully. One part of philosophy certainly requires the norm of truth, but not truth itself, as with so-called scientific expression. It is what he calls the phenomenology of reduction.
I regret very much to have to cut off the possibility of further discussion, but I must say that the last intervention will be that now by Mr. Dumas.
Je serai très, très bref. Je voulais d'abord m'adresser à vous. Ce qui me manque dans votre exposé, vous parlez donc de ce qui reste présent, actuel dans Hegel pour nous, et donc ce passage, ce départ, ce point de départ dans la facticité du quotidien, puis un retour à la facticité du quotidien par l'entremise d'un langage cohérent. Vous supprimez, vous n'avez pas parlé du moment de la négation, et vous n'avez pas parlé de ce qui me semble de rester central chez Hegel, notamment le problème de la mort. Que par ailleurs vous avez commenté avec beaucoup d'éloquence dans vos propres travaux sur Hegel. Le problème de la mort, le problème de la négation, qui semble d'ailleurs être le problème le plus difficile sur le plan du langage, M. Derrida a fait allusion à cela hier soir, et qui n'a pas été évoqué ici. Cela se rattache d'ailleurs à l'opposition qu'en réponse à M. Poulet, vous avez proposée entre la belle âme d'une part, et, qui serait l'âme poétique, et le langage philosophique d'autre part, vous servant de ce qui n'est nullement établi que dans le passage de la phénoménologie où Hegel parle de la belle âme, c'est à Hölderlin qu'il aurait pensé. Le Hölderlin auquel il aurait pensé n'aurait en tout cas pas été le Hölderlin de la fin. Et ce Hölderlin ne peut pas se distinguer de Hegel comme la belle âme poétique se distingue du discours philosophique, mais plutôt par l'entremise de quelqu'un qui s'est démystifié totalement par une expérience véritable de la mort, par opposition à celui qui ne connaît cette expérience que par l'entremise d'autrui, comme c'était malgré tout le cas de Hegel. Enfin, ma dernière remarque s'adresse à M. Girard, où je ne comprends pas comment, invoquant précisément le problème de la mort, il accuse la phénoménologie de ne pas avoir fait face à ce problème ou d'avoir remplacé cette problématique par une vision mythologique dans laquelle je ne reconnais en tout cas pas l'œuvre d'un phénoménologue, Heidegger, qui, sur le problème de la mort, me semble, dans la véritable tradition hegelienne, avoir repris certains thèmes essentiels.
I'm sorry I couldn't get most of that, it was just too quick. But you have neglected the problem of negation and the problem of death, which are the most difficult here. And this is attached to the opposition between the bel âme versus philosophic language.
Oui, c'est parce que je ne... Bien sûr, je n'ai pas parlé de la mort. Je n'ai pas parlé de la mort. Mais c'est moi qui vous pose une question. La belle âme, dans la phénoménologie de Hegel, s'évanouit comme une vapeur dans l'air. Elle disparaît. Elle est ce que j'ai appelé un sens perdu. Alors, tout l'effort de Hegel est de récupérer la mort. Lui, y arrive-t-il? Eh bien, moi, je ne crois pas qu'il y arrive. J'aime mieux vous le dire, je ne crois pas qu'il y arrive. Je ne vois pas, d'ailleurs... Il y a une façon quelconque de récupérer la mort. Mais il n'y arrive pas. Non, je pense que ce que j'ai fait devant vous sur Hegel n'aurait pas satisfait Hegel. Enfin, à moins qu'il fût le philosophe qui regarde son ombre et qui réfléchit sur ce qu'il a fait comme œuvre. J'ai analysé ce que je croyais une œuvre philosophique, un projet philosophique qu'on peut faire, mais si vous me demandez si Hegel réussit à récupérer la mort, je ne crois pas, il l'a transformé en négation. Et nous pouvons au contraire nous découvrir que la négation c'est la mort, ou découvrir à l'intérieur. Nous pouvons tourner dans ce cercle. Et je ne crois pas qu'il soit parvenu à la surmonter. J'aime mieux vous le dire, je ne le crois pas. Malheureusement, enfin, il n'est pas parvenu.
Il est parvenu à la nommer.
Il est parvenu à la...
À la nommer, à l'intégrer dans une certaine mesure comme un moment essentiel.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Simplement, il y avait, dans mon exposé, il y avait quand même, dans ma communication, il y avait une place. C'est le sens perdu. Je lui donnais une place qui n'est pas tout à fait celle que Hegel lui donne. Mais comme dans Hegel, il y a un sens perdu, par en effet, tout ce qui est récupéré sur la mort par Hegel, c'est tout ce qui n'est pas sens perdu. Tout ce qui est tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, tout ce qui peut être changé en son... Si Hegel s'est dit qu'il y avait le passage, mais il y a aussi la détermination, il y a la fixation, et cette fixation, c'est ce qu'il appelle la mort dans la préface, n'est-ce pas? Comment, ce que fait l'entendement, c'est de pousser jusqu'au stoïkeia, n'est-ce pas? C'est de ne pas en rester aux choses familières, mais de diviser, de fixer tellement que le mouvement se réintroduise en fixant les choses. Et comme ça, il pense que la négation apparaît dans une détermination et que les limitations sont surmontées autant qu'elles peuvent l'être. Et il dit la mort à ce moment-là. Oui, oui, quel rapport y a-t-il entre la mort et la négation? Et comment la mort peut-elle passer dans le long... Je veux bien qu'elle y passe, mais la question est de savoir si elle est complètement surmontée dans le passage. Ici, c'est plutôt à M. Poulet que je donnerai raison. Il y a une part qui n'est pas sûrement, qui n'est pas récupérable. Ça ne veut pas dire que c'est la pensée qui n'est pas récupérable, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas récupérable. Et je ne suivrai pas Hegel jusqu'au bout. Ça, je ne peux pas.
The fair soul, which represents the poetic consciousness, disappears in Hegel, it is true, and it becomes a lost sense, as Professor Hippolyte had expressed in his paper this afternoon. There's an effort here to recuperate death, And he fails to do this. Professor Dumont interjects that Helderlin does manage to recuperate death, and Professor Hippolyte answers that this would not, in a way that would not have satisfied Hegel, he transforms death into negation, but that he cannot surmount it in his philosophy. Professor Dumont interjects that Hegel did not name death in any essential way. And Professor Hippolyte answers that, no, it is this lost sense. There is a passage from death into a kind of rigidity, which I translate from fixation. Hegel wishes to divide this so that he can reintroduce movement into it. And Professor Hippolyte says that Professor Poulet is correct that there is a part which is never recuperable.
It's quite clear that we could go on for many hours, but in view of the time now, I think that it would be best if we now declared the session closed.
Tonight we turn to psychoanalysis, and we are going to hear first Dr. Jacques Lacan, who certainly needs no introduction. We feel that his presence here is an intellectual event in itself, and he's going to speak about a subject which is that's at the center of our preoccupations here and at the center of his teaching structure.
Some pathetical audience. Somebody spent this afternoon some time to convince myself that it will be not surely a pleasure for the English hearing people to listen to my bad accentuation. And that it were a risk for that one can call my message to be transmitted in these conditions. Really, it is a great case of consciousness for me. Because it is absolutely contrary to my own conception of the message. Of the message, like I will explain to you, of the message in the language. Because many, many people talk now about message. It is message everywhere, inside the organism. An hormone is a message. Beam of light to obtain a teleguidance on a plane is a message to the plane or to the satellite and so on. So the message is the language is absolutely not that. But one doesn't care of it. message, our own message, in all cases, comes from the other. I understand from the place of the other. It is not surely the common other, the other with a little o. It is because I have gave as initial letter a great O to the other, of whom I tell now. And in this case, here in Baltimore, it seems to me that the other is English speaking, and in this case, naturally, it is really to make myself a violence to speak in French language. But this question that this somebody put before me, that it will be perhaps something difficult, even a little ridiculous, and some imperfection of my talking, is a great argument. And also, I know, I see that it is also many, many people French hearing, and also French simply, and then doesn't know, not at all, the English. For this, it will be the security. But perhaps I would not also wish to let them security. And in this case, perhaps I will talk French a little and English also. But before I begin this presentation, I would like to explain something to a part of my audience. For some reason, I remark that these last days, also I was always here, I receive many greetings in the lobby from many people, from our North American friend, but never I had really some sort of dialogue, exchange, and I am used to something like that. I think that it is not my fault. Between me, some zone of dread, why not? I don't know dread of what, but surely nobody asked me, for instance, about my position in any sort of matter, peculiarly, absolutely not on my psychoanalytical ones. Also, we are approaching fast the end of our symposium. I could like very much to do something to remedy to that situation. I would like very much to have the opportunity of meeting you informally. And it has been suggested to me that this might be possible here, in this room, before our session begins again at 10:30 tomorrow, I shall be here at 9. And if some colleague of Baltimore, or above all some student, has some question of any matter to put before me, I will be very glad to try to answer to them. About the structure, since it is the matter of our meeting, I will put at first some advices. It can be that there will be here many mistakes, confusion, more and more approximative uses. And I think that quickly it will become some sort of fad about this word. For me, it is not that, because it is a very long time that I have used this term. It is about the beginning of my teaching. And it is not a reason why it is more known now something about my positions, because I trusted only myself to a very peculiar audience, the psychoanalysts, and it was here some also absolutely peculiar difficulties, because the psychoanalyst know really something of that which I was telling before them. And that this thing was a particularly rude thing to support by anybody who practices this psychoanalysis. The subject is absolutely not a simple thing for the psychoanalyst. They have something to do with properly the subject. And it is a very more bad thing that it is possible to think about. In this case, I wish to avoid to make impossible any méconnaissance of my position. Méconnaissance is a French word which I am obliged to pronounce in French, to spell in French. Because it is no méconnaissance in English. Méconnaissance applies itself implies in his meaning the subject precisely. And it is a point that makes for me some advice that it is not so easy to talk about the subject before an English audience. Méconnaissance is not to méconnaître my subjectivity that it is in question. It is exactly the position of the problem of the structure. When I began to teach something about psychoanalysis, I departed for my audience, naturally, because myself I had perceived that long before. I departed for this simple fact that if you open any book of Freud, and peculiarly these books that are properly about the unconscious, you are absolutely sure, it is not a probability, it is a certitude, to fall on a page where it is only question of words. Naturally, in a book it is always a word. Many words printed. But the words are the object where is searched to handle with the unconscious. Not even the meaning of the words. The words in their flesh, in their material aspect. The most part of the speculation of Freud about some turning of a dream or of a lapsus or of a fun is what in French is called calembour, or word game, homonymie, division of a word in many parts, and each part take a new meaning after it is broken. It is curious. Even in this case, it is not absolutely a proof that the unconscious are only material of words and wording. It is not a proof, but it is a probability. And in any case, I have never told that unconscious was wording, but that unconscious was precisely structured. I know that it is not an English word, excuse me, but it is necessary to have this term because we are talking about structure. The unconscious is structure as a language. What is that? It is properly a redundancy, because structured and as a language, this is, in any case, for me, exactly the same. Structured means, in my talking, in my lexic, exactly the same as a language. The intervening of the language in the reality is exactly the same as the intervening of the language. Naturally, that must be, that merits a little comment, but I put that at first before you. And it is not all. Which language? Around myself, it was pupils that take a great trouble to give to that a different meaning, to search the formula of a reduced language. What is the minimum, asked they to themselves, which is necessary to constitute a language? Perhaps only four significance element is enough. It is a curious exercise which is founded only on a complete error. I will show you, I hope, that on the board in a moment. It is a confusion. It is also some philosophers, few really, but some, which were assistant to my seminary in Paris, that found since this time that it was not at all that, it was an under-language and also an over-language. Muse, for instance, over-language. Under-language, phoneme, naturally. But no, the language. It is extraordinary, the pain that all have taken to change the place of the question. As the underlanguage, the phoneme, for instance, or the overlanguage, the muse, for instance, doesn't take their place in our consideration precisely because they are also structured as a language. And when I tell as a language, it is not as some sort of language, for instance, mathematical language or semiotical language or cinematographical language. The language is language. It is only one sort of language, a concrete language, for instance, the English or the French. a language that the people talk. And the first thing to put a front in this context is that it is no meta-language. All so-called meta-language, it is necessary that it will be presented to you with language. You cannot make a course of mathematics only with letter of the board. It is always necessary at any moment to talk the ordinary language that you understand. In this case, it is not only because the material of the unconscious is material, we tell that in French, langagier, that the unconscious structure as a language. Precisely the question that the unconscious propones to you is a problem that put us on the most sensible point of the nature of the language. That is the question of the subject. And I heard this last night somebody to tell that in the language the subject was the subject of the verb. Naturally, it can be the subject for the énoncé in French. It is exactly the sentence. But it is many énoncés where it is no in index of that of this who put the énoncé. When I tell it rains, the subject of the enunciation is not in the sentence. In any case, it is here some sort of difficulty. The subject is not always to identify with what the linguists call the shifter. It is I in this case. The question that the nature of the unconscious put before us is that, in the fewest words, something thinks Always, Freud told us that the unconscious is, before all, thought. And that which thinks is barred from the consciousness. This barred has many applications, many possibilities for the sense, for the meaning. The main is really a barrier. Barrier which is necessary to jump over, to pass through. It is important because if I don't emphasize this barrier, all is well for you. As we tell in French, ça vous arrange. Because if something thinks only in the floor below, underground, it is marvelous. The thought is always here, and it is only necessary that a little consciousness on the thought, and all is well. The living being is naturally thinking. The thought is prepared by the life, naturally. It is the instinct, for instance. This sort of a knowledge that is without intelligence, it is even not sure. It is intelligence. It is great intelligence in a crab. Everybody knows that a crab knows perfectly to take this ashtray with his claw and to keep the equilibrium perfectly, probably more perfectly than myself. If it is that is thought, naturally, the unconscious is absolutely without difficulty. But the unconscious has exactly never to do with any instinct and primitive knowledge and preparation of the thought in the underground.